Je reçois aujourd'hui Gilles Vernassière. Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, monsieur.
Vous êtes l'auteur du Clan des Artus, qui paraît aux éditions du Lys Bleu.
Oui.
Et c'est un livre, votre premier livre, je crois.
Oui, absolument.
Voilà,
absolument.
Qui raconte le quotidien d'une tribu au temps préhistorique.
Oui.
Alors, à une époque très précise où les hommes ont déjà découvert la chasse, la cueillette, bien sûr.
Oui, le feu.
Le feu et aussi les relations humaines.
Oui, absolument. À cette époque-là, eh ben, dans moi, les tribus que j'ai voulu développer, parce qu'il y en a trois, eh bien dans deux d'entre elles, ce sont les femmes qui sont aux commandes.
Voilà.
Voilà. Mmh. Donc ce sont des matriarches qui sont à la fois, donc qui gouvernent un petit peu, qui s'occupent des autres, hein. Sont des mamans qui s'occupent à la fois de leur fille, mais de leurs cousines, de leurs cousins, de tout le monde, quoi.
Elles ont le pouvoir et la connaissance aussi.
Elles ont le pouvoir et la connaissance. Elles sont même amenées à la transmettre, cette connaissance, parce que c'est tout l'intérêt des matriarches. Mmh. Et elles ont aussi le côté à s'occuper du côté spirituel, parce que c'est important aussi, parce que déjà à cette époque, ils se posaient tout un tas de questions sur leur devenir après la mort. D'ailleurs, dans ces clans-là, les deux premiers clans, les deux clans principaux, croyaient à la réincarnation.
Déjà à cette époque-là.
Ah, déjà à cette époque-là.
Parce que le but premier, c'est quand même la survie. Hein.
Tout à fait, voilà. Absolument.
Il faut manger, absolument. Il faut se protéger
en premier
du
lieu,
froid. Voilà.
Bien évidemment, il faut manger. La chasse et la pêche, c'est très important. Il y a aussi fabriquer les outils. Aussi, tanner les peaux. Enfin, tout est important. Mais ils vivent certainement qu'ils ne vivaient pas au même rythme que nous, on vivait dans la production, dans l'angoisse de pas finir les fins de mois, vous voyez.
Hein,
ils avaient aussi des grands moments, des grands moments où ils pouvaient se détendre.
Voilà,
et ils aimaient aussi se retrouver
ensemble.
Et faire la fête, entre guillemets. Alors, ils vivaient en semi-nomades, c'est-à-dire que l'hiver, ils étaient dans les hauteurs pour se protéger à la fois du froid et à la fois des prédateurs. Donc, ils vivaient dans la grotte. Et l'été, ils allaient dans la plaine, le long du Tech, le long du fleuve, pour pouvoir se retrouver et chasser ensemble. Voilà.
Toutes ces tribus-là, donc il y en a trois, n'ont pas du tout le même mode de fonctionnement et d'organisation.
Tout à fait.
Alors, c'était dû à quoi ?
Alors, la première, donc, c'est le clan des Artus, où il n'y a qu'une seule matriarche. Donc, c'est aussi pour montrer qu'effectivement, bon, ben là, il y a une seule personne qui est la référente, mais que ce n'est pas obligatoire. Que ce n'est pas obligatoire, que dans le second clan, eh ben, il y avait deux femmes qui l'étaient. En fait, il ne faut pas croire que dans le néolithique, ou dans le paléolithique, parce que c'est plutôt le paléolithique dont on parle, il n'y avait qu'une sorte de tribu. Qu'il n'y avait qu'une seule manière de vivre. Non, il y avait tout un tas de manières différentes de vivre. Là, les deux premiers clans, qui étaient donc les Artus et les Vernas, vivaient dans le matriarcat, dans une société matrilinéaire. Tandis que les Ins, qu'on va connaître ensuite, eux, c'est le patriarcat.
Et ça, c'est des choix qui se sont faits comment ?
Alors ça, ce sont des choix qui se font au fil du temps, je veux dire, au fil des occasions. Si par exemple, comme là, le Char qui est le matriarche des Ins, lui, il a pris le pouvoir simplement
par la force.
En faisant disparaître l'ancien matriarche, donc par la force également. Donc d'un côté, effectivement, vous avez la force, et puis de l'autre côté, vous avez plutôt le sentiment des femmes qui elles, n'utilisent pas ce genre de choses. Ou l'utilisent d'une manière différente, l'utilisent, elles, pour tuer les animaux, mais pas contre les propres personnes du clan.
Et alors, cet esprit un peu chamanique qu'on retrouve tout au long du livre, ça vient aussi... comment c'est venu, ça, de croire
qu'il y a peut-être
des êtres supérieurs?
Je pense que de tout temps, l'être humain, de par son intelligence, il a voulu un petit peu savoir un petit peu d'où il venait et où il allait. Donc, où il allait, qu'allait-il se passer après la mort, quoi. Mmh. Et quand il voit les étoiles, quand il voit le soleil, quand il voit la lune, il va se poser tout un tas de questions. Mmh. Donc là, et là, ben, il va pouvoir, par son imagination, et puis, il va pouvoir se prolonger dans la mort, en fait. Et puis, ça va donner un sens à sa vie.
Mmh. Mais déjà,
il avait cette époque. Pour moi, il l'avait, oui, tout à fait.
Alors, vous dites pour vous. Alors, justement, quelle est la part de fiction et de réalité?
Alors, il y a beaucoup dans
votre livre.
Alors, beaucoup de fiction, bien évidemment. Mmh. Alors, moi, la personne, si vous voulez, c'est Marilène Patoumatis, la plus grande anthropologue de France, hein, qui est directrice du CNRS, qui m'a donné toutes ces idées, parce que bon, j'ai lu ses livres, et puis aussi j'ai regardé ses discours sur YouTube. Mmh. Donc ça m'a beaucoup inspiré. Et elle, bien sûr, en tant que femme, elle pense aussi que les sociétés matrilinéaires ont fait plus que survivre à cette époque-là. Mmh. Et on peut même imaginer... Moi, j'imagine, franchement, que c'est grâce à elle, grâce à ces sociétés matrilinéaires, qu'aujourd'hui, nous sommes là. Mmh. Et que même dans l'avenir, effectivement, si on voulait se sauver d'une sixième extinction qui me paraît imminente, eh ben, il faudrait peut-être penser à redonner aux femmes une place plus importante.
Alors justement, à travers ces récits de vie, vous évoquez et vous soulevez des problématiques actuelles de nos sociétés contemporaines. Alors bien sûr, la place des femmes, l'égalité homme-femme, mais aussi la question du genre.
Tout à fait, absolument, absolument. Je dis à un moment donné qu'effectivement, si un homme voulait être une femme, on lui donnait la possibilité de l'être et réciproquement, bien évidemment.
Je vais le lire, cet extrait.
Allez-y. Allez-y.
Au cours de ses explications, Kalia fut étonnamment surprise d'apprendre que chez les Vernas et chez les autres, les femmes jouaient un rôle si primordial. Yel parla aussi des hommes comme Ner, Jen, Dead et aussi de lui-même. Il fit comprendre à Kalia que cette organisation au niveau des clans ne rabaissait en aucun cas les hommes, qu'ils avaient aussi des responsabilités, leurs mots et leurs grognements à dire, et que c'était un grand bonheur pour eux de se sentir l'égal des femmes, malgré le fait que le statut de matriarche et de chamane ne soit attribué qu'à celle-ci. Pour conclure son exposé, il avoua à Kalia que chez eux, si une femme se sentait homme ou un homme une femme, on attribuait le statut demandé à chacun sans aucune autre difficulté. Il fallait bien reconnaître que très peu d'usages étaient genrés, que les habitants du bord du Tech et du Tête, que chacun cherchait simplement son propre bonheur et celui de son clan. Donc voilà, des problématiques d'aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Moi, je suis persuadé qu'un homme qui vit sous la coupe d'une femme, par exemple, enfin, qui vit avec une femme et que ce soit elle qui mène un petit peu, qui tienne un peu la corde, je suis sûr qu'il n'est pas malheureux. Mmh. Moi, j'ai plein d'exemples là-dessus. Hein. Je pense que les sociétés matrilinéaires donnent l'égalité aux hommes, mais le patriarcat, lui, c'est pas ça. Hein.
Alors, donc, pour en revenir justement à ce parallèle, donc vous êtes inspiré des gens de votre famille, de votre entourage.
Tout à fait, ça.
Alors, vous avez, il y a des clés pour ceux qui peut-être se reconnaîtront. Enfin, vous. Il y a quelques jeux de mots que vous faites par là.
Voilà. Tout à fait, oui, j'aime bien. Mais c'est mon côté humour, j'adore l'humour.
Alors, bien sûr, on voit aussi l'humour. Alors là aussi, c'est quand même peut-être en décalage. Est-ce que l'humour existait à cette époque-là?
J'en suis persuadé. J'en suis persuadé qu'il existait, bien évidemment.
Parce que c'est vrai que ça revient, hein, cet humour. Alors, cette bienveillance, cette estime de soi.
Bien évidemment.
On n'a pas l'habitude de lire ça.
Oui. Je pense, on a l'impression que les hommes préhistoriques sont des bêtes sauvages.
Voilà.
Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Marilène Patoumatis, elle dit si vous mettez un néandertalien ou un homo sapiens de l'époque, vous le mettez ici, tout bébé, tout ça, vous ne verrez jamais la différence. L'intelligence était la même. Donc il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas de l'humour. Avoir de l'humour, c'est être intelligent, non?
En tout cas, vous êtes amusé donc à faire tous ces parallèles. Hein. On sent que voilà, vous vous amusez.
Ah ben moi, je me suis régalé parce
Et le lecteur s'amuse aussi. Enfin,
Bah écoutez, pour l'instant, j'ai eu que des bons retours. Pour l'instant, j'ai eu que des bons retours.
Et puis, il y a donc cette lecture au premier degré, où alors on voit la vie quotidienne, le détail des chasses qui sont menées,
des
pêches,
alors,
etc.
Oui, alors
c'est très détaillé.
Ça paraît un petit peu technique, tout ça comme ça. Ici, j'ai essayé d'être aussi précis. Et puis, que ça soit louable, quoi, qu'on puisse me croire, qu'on puisse croire à ces gens-là.
Ah oui, on y est, de toute façon, on y est. Puis il y a des petits dessins qui viennent agrémenter
Donc là, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Michel Durand, qui a eu la gentillesse de me faire ses dessins. Ils sont absolument magnifiques. J'adore.
Oui, c'est bien.
Alors
c'est
lui, il a fait ça selon son esprit à lui, pas selon le mien. Bon, quelquefois, je lui fais rectifier des choses parce qu'au départ, il me mettait que des barbus. Alors je dis, c'est une société matrilinéaire, il faut que tu me mettes des femmes, quoi. C'est ça.
Donc cette lecture au premier degré qu'un enfant pourrait lire, parce qu'on
bien sûr, voilà, c'est abordable.
C'est une aventure, aventure humaine.
Mais il n'empêche que c'est quand même un livre à tiroir. Adultes et les personnes qui veulent y trouver d'autres choses, y trouveront.
Voilà, il y a un deuxième degré, une seconde lecture avec les messages que vous voulez faire passer.
Absolument.
Le clan des Artus, donc Gilles Vernassière, Ulysse Bleu, on va pouvoir le retrouver où et vous retrouver où?
Alors, pour l'instant, c'est moi qui ai acheté tous les livres que je diffuse. On peut les retrouver également sur le Lise Bleu, sur le site, sur Internet.
On mettra tout ça sur le site de la radio, donc lisebleu.fr. On peut commander là.
Là on peut commander. On peut également commander sur la FNAC. Il suffit simplement, c'est très simple, vous tapez le clan des Artus, Gilles Vernassière. Et après, avec Google,
on a
la liste.
Et sinon, dans les librairies, on peut le trouver.
J'ai une première librairie au kiosque au Coteau.
Au Coteau, d'accord.
Où vous pouvez le trouver.
C'est bien aussi de le voir, de l'avoir entre les mains, de le faire.
Bien évidemment. Bien évidemment. Et à la fin du livre, je laisse une adresse mail qui s'appelle leclandesartus@gmail.com pour toutes les personnes qui voudraient me contacter ou qui voudraient une dédicace. Et je suis à leur disposition.
Et justement, on va pouvoir vous voir à Crémant.
Alors, on me voit ce dimanche à Crémant.
Donc ce 26 avril.
Et le samedi à la FNAC. Samedi après-midi,
et
de 14h.
Samedi 25 à la FNAC.
De 14h à 18h. Et j'aurai grand plaisir à dédicacer les livres que les gens voudront bien acheter.
Et à répondre à toutes les questions.
À toutes les questions, bien évidemment, parce que ça, je voudrais que ce soit justement... que ça en reste pas un simple livre que je puisse dialoguer avec toutes les personnes qui sont intéressées au thème que j'ai développé.
Vous avez prévu une suite peut-être parce que a bien envie de connaître la suite de l'histoire.
J'ai pas vraiment, mais oui et non. Non parce que je vais laisser le paléolithique et je suis en train de commencer. Là, j'ai commencé depuis un mois. Un second ouvrage qui s'appelle Edana, et c'est le nom d'une femme celte qui va vivre là, ici, dans la région Arouane, entre Arouane et Saint-Nicolas-des-Biers, et qui est aussi, c'est pas une matriarche, mais c'est une druidesse.
Donc vous remontez un petit peu le temps.
Exactement.
On peut dire ce que vous faisiez, parce que vous écrivez,
Je suis à la retraite. Je suis à la retraite depuis 8 ans. Mon principe, parce que j'ai fait plein de jobs différents, mais si vous voulez, le principal et ce que j'ai préféré, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, la restauration, c'est là où justement j'ai pu connaître et apprendre le genre humain, on va dire.
Eh bien voilà, Gilles Vernassière, vous avez tout dit, on mettra tout ça sur le site de la radio. En tout cas, on vous retrouve à la FNAC ce samedi ce dimanche aux 3e rencontres du livre à Crémaux.
Absolument.
Merci d'être passé par nos
studios. Merci de m'avoir accueilli, monsieur. Merci beaucoup.